Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une toute nouvelle série intitulée « La gloire de Christ ». La gloire de Christ. Nous ne pouvons nous vanter et nous glorifier que de Christ seul, et cela pour les raisons suivantes. Premièrement, à l'origine, en Adam et Ève, notre nature humaine a été créée à l'image de Dieu, pleine de beauté et de gloire. Malheureusement, le péché a dissipé cette gloire. Notre nature humaine ne ressemblait alors plus du tout à Dieu, car elle en avait perdu l'image. Satan s'est emparé du pouvoir. Et si l'humanité avait été abandonnée à une telle condition, elle aurait péri pour l'éternité. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion, Dieu, dans sa grande compassion et dans tout son amour, s'est abaissé et a pris la nature humaine, celle-là même qui, après avoir sombré dans la misère la plus profonde, est maintenant élevée au-dessus de toute la création de Dieu. Car Dieu a établi Christ à sa propre droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, puissance, force et domination, et de tout nom qui se puisse nommer, non seulement en ce siècle, mais aussi en celui qui est à venir. Éphésiens chapitre 1, versets 20 et 21. Ceux qui ont reçu la foi et la grâce, et qui comprennent donc bien la nature humaine, doivent se réjouir, parce que celle-ci a été retirée des profondeurs du péché et exaltée dans la gloire qu'elle a maintenant reçue en raison de l'honneur qui a été donné à Jésus-Christ. Deuxièmement, en Christ, la relation entre notre nature et Dieu demeure toujours la même. L'amitié dont nous jouissons au commencement avec Dieu a été rapidement rompue par la chute de l'homme. Les êtres humains sont devenus les ennemis de Dieu. Toutefois, dans la sagesse et dans sa grâce, Dieu a eu pour dessein non seulement de rendre à nouveau notre nature semblable à la sienne, mais de le faire de telle façon que toute séparation entre nous et lui soit désormais impossible. Comment donc ne pas continuellement nous émerveiller du fait que notre nature puisse partager la vie glorieuse de Dieu? La sagesse, la puissance et la bonté du Tout-Puissant ont rendu cela possible en Jésus-Christ. Cette œuvre de Dieu fait partie du mystère de la piété dans lequel les anges désirent plonger le regard, selon la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12. Combien pécheurs et insensés sommes-nous de la négliger en laissant aller un peu trop nos pensées aux autres choses. La preuve que Dieu a tellement aimé l'humanité et que le Fils de Dieu n'est pas venu sur la terre sous la figure d'un ange, mais sous celle d'un homme, c'est-à-dire le Christ Jésus, partageant ainsi avec nous une même nature. Et troisièmement, En Christ, nous voyons qu'il est possible pour notre nature humaine de vivre au ciel. Nos esprits ne parviennent pas à concevoir le nombre des étoiles. Comment alors oser supposer que les êtres humains puissent vivre dans un ciel encore plus glorieux que les cieux que nous contemplons? Pourtant, voyez-vous, notre nature, en la personne de Jésus-Christ, homme, qui a pénétré le ciel éternel de lumière et de gloire. Oui, Jésus nous a promis que où il est, nous y serons avec lui pour l'éternité. Les tentations, les épreuves, les peines, les dangers, les peurs et les maladies sont le lot de la vie présente. Aucun de nos, on peut dire, de nos soucis n'est dépourvu d'anxiété et de peine. Mais en considérant la gloire de Jésus-Christ que nous partagerons, eh bien nous pouvons être consolés de tous ces maux et les vaincre. Alléluia. Nous sommes donc pressés de toute manière, mais non écrasés, non désemparés, et même pas désespérés et persécutés. Nous ne sommes pas abandonnés, abattus, mais nous sommes non plus perdus, et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, et les visibles, eux, sont éternels. Notez 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 9, et les versets 16 à 18. Notez, s'il vous plaît, les indications bibliques que je vous donne. Chers amis, que sont toutes les choses de cette vie, soit bonnes, soit mauvaises, comparativement à l'avantage que nous procure l'excellente gloire de Jésus-Christ. Nos états d'âme nous causent souvent la plus grande anxiété. Le psalmiste se demandait « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu sur moi ?» Psaume 42, versets 6 et 12. Si nous nous concentrons par la foi sur la gloire de Jésus-Christ, notre esprit troublé et confus trouvera la paix et le repos. Par Jésus-Christ, nous avons eu par la foi, je dis bien par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notez Romains, chapitre 5, versets 2 à 5. Nous pouvons même songer à la mort avec une certaine joie lorsque nous arrêtons nos pensées sur la gloire de Jésus-Christ. Beaucoup vivent dans la crainte de la mort toute leur vie. Comment pouvons-nous vaincre de telles craintes? Chers amis, Au moment de quitter cette vie, nous devons volontairement remettre nos âmes entre les mains de celui qui peut les recevoir et les garder. L'âme doit passer dans l'éternité seule, par elle-même. Elle laisse derrière elle, et cela pour toujours, tout ce que, on peut dire, ce qu'elle avait auparavant connu par ses propres sens naturels. Par conséquent, remettre son âme à Dieu à la façon de l'apôtre Paul doit constituer un acte de foi. Je sais, a-t-il dit, en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance, Jésus, de garder mon dépôt et de le garder jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Le Seigneur Jésus-Christ, il est notre meilleur exemple. Au moment de rendre l'esprit, il a remis son âme entre les mains de Dieu son Père, étant persuadé qu'aucun mal ne lui arriverait. Aussi mon cœur est dans la joie, même mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, est-il dit. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Notez le psaume, chapitre 16, versets 9 et 10. Le dernier acte victorieux de la foi a lieu au moment de la mort. L'âme se dit à elle-même, tu quittes maintenant le temps et entres maintenant dans les choses éternelles que l'œil naturel n'a point vu, ni l'oreille entendu, et dont le cœur de l'homme n'a pas réussi à imaginer toute l'ampleur. Remets-toi donc avec tranquillité et confiance à la puissance, la grâce, la vérité et la fidélité souveraine de Dieu, et tu trouveras le repos et la paix. Jésus-Christ reçoit immédiatement les âmes de ceux qui croient en lui, comme nous le voyons dans le cas d'Étienne. Au moment de mourir, Étienne a dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Actes, chapitre 7, verset 59. Rien ne nous prépare mieux à remettre nos âmes entre les mains de Christ au moment de mourir que de goûter chaque jour de nos vies à une mesure de sa gloire, de sa puissance et de sa grâce. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas comme les anges. Pardon. Car les anges, ils sont de purs esprits qui ne peuvent pas mourir. Nous ne ressemblons pas non plus aux animaux qui n'ont pas d'âme immortelle. Toutefois, voyez-vous, Dieu nous a préparé un corps glorieux pour et par la résurrection qui n'aura plus de nature physique, car nous serons alors plus semblables aux anges. Mais dans cette vie, il existe une relation si étroite entre l'âme et le corps que nous tentons d'ignorer toute possibilité qu'ils puissent être séparés l'un et l'autre. Comment donc est-il possible d'être aussi prêt à mourir que l'apôtre Paul, oui, l'apôtre Paul, voyez-vous, qui a dit, Il a dit, j'ai le désir de m'en aller, et il a dit, et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Il a dit cela dans Philippiens, chapitre 1, verset 23. Un tel empressement ne se trouve que en regardant par la foi à Christ et à sa gloire, et en étant persuadé que être avec lui qui est beaucoup mieux que la vie présente. Voyez-vous, si nous voulons mourir avec joie, nous devons penser à la façon dont Dieu nous appellera à sortir de la poussière du sépulcre à la résurrection. C'est alors, oui, c'est alors que par sa force toute puissante, il nous restaurera non seulement la gloire que Adam et Ève avaient à la création, mais il nous donnera en plus des bénédictions formidables dépassant notre entendement. Aussi n'oublions pas que bien que l'âme et le corps de notre glorieux Sauveur aient été séparés à la mort, et cela de la façon que les nôtres le seront aussi, il possède maintenant, lui, Jésus-Christ, une très grande gloire. Son exemple peut nous donner de l'espérance. Nous devons être prêts à accepter l'heure que Dieu a choisie pour notre mort. Comme Moïse, il est possible que nous souhaitions voir un peu plus l'œuvre glorieuse de Dieu à l'égard de son peuple sur cette terre. Et comme l'apôtre Paul, nous pouvons penser qu'il est nécessaire pour le bien-être des autres que nous vivions encore un peu. Nous aimerions peut-être voir nos familles mieux établies et nous aimerions régler autant que possible nos soucis personnels. Mais tant que nous ne serons pas prêts à nous abandonner à la volonté de Dieu quant à la mort, nous ne pourrons pas jouir de la paix en ce monde. Nos temps sont en sa main. Avez-vous compris? Notre temps d'aujourd'hui et de demain se trouve dans les mains du Seigneur, selon son bon plaisir souverain. Nous devons donc accepter cette réalité comme étant la meilleure. Certains ne redoutent pas la mort, mais ils redoutent la façon dont ils vont mourir. Notre vie, on peut dire notre vie terrestre, pourrait venir à sa fin par une longue période de maladie, de grandes douleurs ou quelque forme de violence. Il serait donc sage d'être prêt à vivre tout ce que Dieu permet qu'il arrive. N'est-il pas juste qu'il fasse ce qu'il veut, de ce qu'il veut avec ceux, oui, avec ceux, avec vous et vous qui écoutez, et moi, qui lui appartiennent? Sa volonté n'est-elle pas infiniment sainte? N'est-elle pas infiniment sage, juste et bonne en toutes choses? Ne sait-il pas ce qui est le meilleur pour nous, pour toi, et ce qui le glorifiera le plus? Beaucoup de gens ont découvert qu'ils ont été capables d'endurer les choses qui les terrifiaient le plus parce qu'ils ont reçu beaucoup plus de force et de paix d'esprit surtout, qu'ils ne l'auraient cru possible. Mais nous ne pourrons pas accomplir toutes ces choses-là à moins de croire dès maintenant en l'excellente gloire de Jésus-Christ et de nous en réjouir. Chers amis, vous savez, il y a 4 évangiles. Eh bien, nous allons d'abord voir ce que nous dit l'évangile de Saint Matthieu. Premièrement, l'évangéliste, le disciple Matthieu, rapporte ces mots de Jésus. Il dit : Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chapitre 5, versets 17, 18 et 20. Jésus a aussi rendu évident que le nouvel Israël serait interracial et international, qu'il serait le sel et la lumière du monde. Il est particulièrement remarquable que Matthieu, on peut dire le plus juif des 4 évangélistes, raconte cependant presque dès le début de son évangile la visite des mages mystérieux, représentant des nations païennes. Et tout à la fin, il précise la mission donnée par le Seigneur ressuscité d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. La communauté de son royaume allait donc croître comme le grain de moutarde, minuscule, insignifiant, jusqu'à remplir la terre. Il est dit : Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Saint Matthieu chapitre 8, verset 11. Deuxièmement, l'évangile selon Saint Marc, là Jésus-Christ, on voit, il est le serviteur souffrant. Si Matthieu présente Jésus comme étant le Christ des Écritures saintes, Marc le présente comme étant le serviteur souffrant du Seigneur qui meurt pour les péchés de son peuple. La croix est donc au centre de la compréhension que Marc a de Jésus-Christ. Son évangile, comme les 3 autres, est strictement anonyme. Il ne précise pas son identité, mais une très ancienne tradition attribue au disciple Marc le second évangile. En même temps, on sait qu'il y a eu une étroite association entre le disciple Marc et l'apôtre Pierre. Papias, évêque de Hierapolis, au début du second siècle, il appelle Marc l'interprète de Pierre. Avez-vous compris? Il dit du disciple de Marc qu'il était l'interprète de Pierre, celui qui a rassemblé toutes ses mémoires et ses sermons. Son évangile contient plus de références à l'apôtre Pierre que les autres, et il raconte avec plus de précision et de manière plus vivante même les sottises, les points faibles et les reniements de Pierre. Certains ont donc suggéré que le disciple Marc, pour avoir lui-même connu ses mêmes faiblesses, il s'est senti donc proche de l'apôtre. Si le jeune homme qui s'était enfui tout nu du jardin de Gethsémané, s'il était lui, l'évangéliste Marc, le disciple Marc, notez chapitre 14, versets 51 et 52. Alors lui aussi, il a fui, et au cours du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, il se sauva une seconde fois, selon Actes chapitre 13, verset 13, et chapitre 15, versets 37 et 38. Mais si Marc, comme l'apôtre Pierre, a renié Jésus, il a aussi été restauré comme lui. Car les dernières lettres du Nouveau Testament nous le montrent, accomplissant un service loyal à la fois pour l'apôtre Pierre et pour Paul. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 11, « Prends Marc et amène-le-moi avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Considérons maintenant un passage crucial de cet évangile. Il contient trois de ses thèmes favoris. Qui était Jésus, ce qu'il est venu faire et ce qu'il exige de ceux qui le suivent. Notez maintenant Saint Marc, chapitre 8, verset 27, jusqu'au verset 38. Voici ce qu'il y est dit. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur fit en chemin cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, « Les uns pensent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» L'apôtre Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus le recommanda de ne dire cela de lui à personne. Alors il a commencé à leur enseigner que le Fils de l'homme devait souffrir beaucoup et qu'il serait rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et l'apôtre Pierre, l'ayant pris à part, il s'est mis à le reprendre. Mais Jésus se retourne et regarde ses disciples, et il réprimande Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ensuite, il a appelé la foule avec ses disciples et il leur a dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, eh bien il la retrouvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, eh bien le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Saint Marc chapitre 8 verset 27 jusqu'au verset 38. J'ai pris cela dans ma Bible allemande, mais rassurez-vous, c'est pareil chez vous. Ensuite, Jésus leur recommande de se taire et de garder son identité secrète, sans en parler à personne, selon le chapitre 8, verset 30. Cet ordre de garder le silence et le secret a rendu perplexe plus d'un lecteur. Mais cela n'est pas difficile à comprendre, car Marc a déjà donné deux exemples d'un tel appel au silence. Après avoir guéri un lépreux, Jésus lui dit « Garde-toi de rien dire à personne. » Chapitre 1, verset 44. Et après qu'un sourd et muet a été guéri, Jésus le recommande de ne rien dire à personne. Chapitre 7, verset 36. Mais pourquoi devrait-il garder la bouche fermée? Oui, pourquoi? Parce que la foule avait sur le Messie de fausses notions politiques. Car Israël avait été oppressé par un joug étranger, et cela durant plus de 700 années, à l'exception d'une brève période de liberté et d'ivresse sous les Maccabées. Le peuple pensait maintenant que Yahvé l'Éternel allait intervenir à nouveau, que les ennemis seraient détruits, le peuple serait libéré et que l'âge messianique allait poindre. La Galilée était le foyer de telles attentes nationales. Alors Jésus craignait évidemment que le peuple l'identifie à ce rôle révolutionnaire, et il avait pour cela de très bonnes raisons. Car après avoir nourri 5000 personnes, l'apôtre Jean rapporte que la foule allait venir pour l'enlever, pour le faire roi. Saint Jean chapitre 6 verset 15. Mais il n'était pas venu pour être un messie politique, pas du tout. Il était venu plutôt pour mourir, et par sa mort, pour assurer la libération spirituelle de tout son peuple. Aussi, une fois que les disciples l'ont reconnu comme étant le Messie, chapitre 8, verset 31, il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait souffrir beaucoup et être rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et les docteurs de la loi, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Il leur disait toutes ces choses ouvertement, c'est-à-dire publiquement. Il ne devait y avoir nul secret concernant le genre de Messie qu'il avait choisi d'être. Ensuite, considérons ce que Jésus était venu faire. Une fois que les 12 ont saisi sa véritable identité, Jésus a insisté particulièrement sur la croix. En 3 occasions différentes, il a clairement annoncé ses souffrances et sa mort. Notez le chapitre 9, verset 31, et le chapitre 10, verset 33 et 45. En fait, le tiers de l'Évangile est consacré à l'histoire de la croix. 3 phrases des annonces que Jésus fait de sa mort méritent une mention spéciale. D'abord, le Fils de l'homme doit, il faut, que souffrir beaucoup et être mis à mort. Chapitre 8, verset 31. Pourquoi fallait-il qu'il souffre et soit mis à mort? Réponse. Afin que les saintes écritures soient accomplies. À l'ouïe de cette affirmation de la croix, l'apôtre Pierre fut assez effronté pour reprendre Jésus, si bien que Jésus, se retournant, le réprimanda. Chapitre 32, verset 33. Rien ne pouvait être toléré, rien qui puisse relativiser la nécessité de la croix. La seconde mention digne d'être relevée précise que c'est le Fils de l'homme, oui, le Fils de l'homme qui doit vraiment souffrir. Quoique Fils de l'homme soit l'expression hébraïque normale pour désigner l'être humain et était souvent utilisé ainsi dans l'Écriture sainte, il paraît donc très clair que Jésus l'a adopté pour se désigner lui-même en relation avec la vision du prophète Daniel au chapitre 7. Là, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, c'est-à-dire à une personne humaine, arriva sur les nuées des cieux et s'approcha de l'Ancien des Jours, le Dieu Tout-Puissant, sur son trône. Et l'autorité, la gloire et le règne lui furent donnés. Vous avez compris à qui? Au Fils de Dieu. De telle sorte que tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'adorèrent. Sa domination, ajoute Daniel, est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Notez Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Donc, voici que Jésus fait une déclaration absolument stupéfiante. Il dit que le Fils de l'homme doit souffrir. Cela signifie que Jésus adopte le titre, mais qu'il change le rôle. Pour Daniel, toutes les nations le serviront. Pour Jésus, il ne serait pas servi, mais il servirait. Jésus a fait ainsi ce que personne d'autre n'a jamais fait. Il a réuni les 2 images de l'Ancien Testament du serviteur souffrant, notez Ésaïe 53, et celle du Fils de l'homme qui doit régner. Notez Daniel chapitre 7. Voici enfin la dernière expression où Jésus fait référence à sa mort. Il est dit que le Fils de l'homme est venu, non point pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Chapitre 10, verset 45. Une rançon, c'est un prix qui est payé pour la libération de captifs. Jésus enseigne donc que les êtres humains sont captifs, en particulier du péché, ensuite de la culpabilité et du jugement, et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes jamais. Il devait donc se donner lui-même comme étant la rançon de beaucoup. La croix devait être le moyen de notre libération. C'est seulement parce qu'il est mort à notre place que nous pouvons tous être libres et libérés. Pour l'évangéliste Marc, tout ça représente un aspect du sens que Jésus avait donné à la croix. Enfin, chers amis, considérons ce que Jésus attend vraiment de nous. Après avoir parlé de sa mort prochaine, Jésus appelle à lui toute la foule et il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Chapitre 8, verset 34. Il passe immédiatement de sa croix à la nôtre et il dépeint la qualité du disciple chrétien en termes de renoncement à soi et même de la mort. Car on ne peut comprendre ce que signifie porter la croix sans connaître l'arrière-plan culturel d'une Palestine qui a été occupée par les Romains. Ceux-ci resservaient en quelque sorte, la crucifixion au pire criminel et forçait même les condamnés à cette forme de mort, à porter leur propre croix jusqu'au lieu de l'exécution. Donc si nous suivons Jésus-Christ en portant nous aussi notre croix, il n'y a donc qu'un lieu où nous puissions aller, et c'est à l'échafaud. Être disciple de Jésus-Christ est bien plus radical qu'un amalgame de croyances religieuses, ou de bonnes œuvres, ou de pratiques religieuses diverses. Aucun langage ne peut en rendre compte en dehors des images de la mort et de la résurrection. Car c'est lorsque nous nous perdons que nous nous retrouvons. Et lorsque nous mourons, c'est là que nous commençons à vivre pour l'éternité. Chapitre 8, verset 35. Nous avons donc ici trois thèmes fondamentaux de l'évangéliste Marc. Qui est Jésus? Il est le Christ. Dans quel but est-il venu? Il est venu pour servir, pour souffrir et pour mourir. Qu'attendent-ils de ses disciples? qu'ils prennent aussi leur croix et le suivent par la mort du renoncement à soi jusqu'à la gloire de la résurrection. Alléluia. Troisièmement, nous avons l'évangile selon Luc et les actes des apôtres. Là, nous avons Christ, le sauveur du monde. Il existe une relation fondamentale entre la nature profonde des évangélistes et de leur manière de présenter Jésus-Christ. L'inspiration divine, c'est essentiel, ne supprime pas la personnalité humaine des écrivains. Saint Luc constitue le meilleur exemple de ce principe. De tous ceux qui ont contribué à la rédaction du Nouveau Testament, l'évangéliste Luc est le seul à ne pas être juif, vous l'avez compris. Il était donc tout à fait indiqué qu'il présente Jésus non comme le Christ des Saintes Écritures, ce que a fait saint Matthieu, ni comme le serviteur souffrant, comme l'a fait saint Marc, mais comme étant le sauveur du monde qui ne tient pas compte de la race, du sexe, ou du besoin, ou de l'âge. En premier lieu, saint Luc, il était médecin, selon Colossiens, chapitre 4, verset 14. C'était donc un homme d'une très solide éducation, d'une réelle culture, ce que montre l'excellence de son grec. Et il était habité d'une réelle compassion. Il avait vraisemblablement prêté le serment d'Hippocrate. Ensuite, évidemment, nous avons le message de Luc. Et le message de Luc est une bonne nouvelle. Et comment? Le message de Luc est une bonne nouvelle de salut par Jésus-Christ. Et cette vérité, elle apparaît dans l'histoire de Siméon, car il prend le bébé Jésus dans ses bras et il dit ce qu'il a vu. En fait, ce qu'il a vu, c'est simplement un bébé. Mais ce qu'il dit avoir vu, c'est le salut de Dieu. Chapitre 2, verset 28 et verset 30. Et Jésus était bien cela. L'évangéliste Luc, il narre, il raconte, avec une élégance qui lui est propre, l'incomparable histoire de Jésus-Christ, comme il est né d'une vierge dans la cité de David pour être notre sauveur. Comment il a dit à Zachée que le salut était venu dans sa maison, en ajoutant que le Fils de l'homme était venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Chapitre 19, versets 9 et 10. Et comment il a prié, oui, prié, pour que ses bourreaux soient pardonnés. Il a aussi promis aux brigands repentants sur la croix, rappelez-vous, qu'il serait avec lui dans le paradis, avec Jésus dans le paradis. Chapitre 23, versets 34 et 43. Enfin, exalté à la place de la plus haute autorité, à la droite de Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit et il accorde le salut encore aujourd'hui, selon Actes chapitre 2, verset 33. parce que Jésus est unique par sa naissance, il est unique par sa mort, et il est unique par sa résurrection et son exaltation. Le salut qu'il accorde est absolument unique lui aussi, puisque Dieu le Père, on peut dire, lui a suggéré, je pense, qu'il pourrait, en quelque sorte, être Dieu-homme. Eh bien, je pense, moi, que tout cela est absolument possible. Et que ensuite, nous savons que Jésus-Christ est monté au ciel et cela a été donné à aucun autre être humain pour l'instant. Car il n'y a pas d'autre sauveur. Car personne d'autre ne possède toutes ces qualifications. Saint Luc a donc conservé l'affirmation de l'apôtre Pierre, où il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, vous l'avez bien compris, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, vous et moi. Actes chapitre 4, verset 12. Enfin, le message de l'évangéliste Luc est donc une bonne nouvelle de salut par Jésus-Christ pour le monde entier. Saint Luc débute volontairement ces deux volumes par une affirmation d'universalité. Et toute chair, est-il dit, verra le salut de Dieu. Notez Saint Luc chapitre 3 verset 6. Et il est dit encore, et je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair. Actes des apôtres chapitre 2 verset 17. Ces deux versets contiennent donc la même expression grecque passa sarx, qui signifie toute chair ou tous les peuples. Donc, je répète, ces deux versets contiennent cette expression grecque qui dit et qui signifie toute chair et tous les peuples. Comme des poteaux indicateurs, ils mettent donc l'accent sur l'histoire qui suit, car l'évangéliste Luc nous montre Jésus qui se détourne de son chemin pour honorer ceux que le monde méprise, pour traiter en amis tous ceux qui sont sans amis, et il accueille tous les exclus. Voyez-vous, ensuite, les femmes, il y a les femmes et les enfants. Dans l'Antiquité, eh bien, les femmes étaient généralement méprisées et opprimées. Quant aux enfants non désirés, on les abandonnait en ce temps-là, ou parfois, il y en a même qui les tuaient. C'est triste à dire, mais selon des recherches sérieuses, cela a existé. Du reste, dans notre temps pseudo-civilisé, croyez-vous que cela n'existe plus ? Une question seulement, hein. à vous de répondre. Mais saint Luc insiste sur le fait que Jésus aimait les unes et les autres, car il est le seul à rapporter les histoires d'Élisabeth et de Marie et de Marthe, et de la veuve de Nain, qui perdut son fils unique, selon le chapitre 7, versets 11 à 17. Des femmes, oui, qui soutenaient Jésus de leurs ressources personnelles, chapitre 8, verset 3, et de celles qui se tenaient au pied de la croix et qui sont venues tôt le lendemain au tombeau, noté chapitre 23, verset 49, et je crois chapitre 55, verset 56, et le chapitre 24, verset 1. J'espère que je ne me trompe pas. Pour ce qui est des enfants, Matthieu et Marc rapportent tous les deux l'invitation de Jésus à les laisser venir à lui. Mais Luc, il en parle comme étant des bébés. Du moins, ils étaient de petits-enfants, selon le mot grec. Et il ajoute que Jésus avait pris un petit enfant et l'avait placé près de lui. Chapitre 9, verset 47, et chapitre 18, verset 15 à 17. Ensuite, les pauvres. Il y avait les pauvres et les opprimés. Plus que les autres évangélistes, saint Luc s'intéresse aux problèmes de la richesse et de la pauvreté. Et aujourd'hui, la pauvreté, il y en a de plus en plus, tous les jours. Ça devient catastrophique. Il se préoccupait donc d'égalité économique et affirme que Jésus a été loin pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Chapitre 4, verset 18. Il rapporte trois paraboles relatives à l'argent et il dépeint la générosité de la primitive église de Jérusalem où se pratiquait le partage des biens avec les nécessiteux. On peut en prendre de notre grade. Voyez-vous, bien sûr, il y a des polémiques. Je ne dis pas qu'une personne qui est mariée, qui a des enfants, et où peut-être le mari est momentanément au chômage qui peut parfois durer, je ne dis pas plus, vous l'avez compris, que cette famille-là devrait accepter des réfugiés ou devrait donner ce qui leur manque de toute façon aux autres. Évidemment, non. Le Seigneur ne nous demande pas d'être insensés. Mais, et là, je plaisante un peu, il y a des Donald Trump, et il y en a d'autres qui lui ressemblent, qui pourraient faire un geste, même un grand geste, mais ils ne le font pas. C'est là tout le problème, voyez-vous. Ça va être difficile de résoudre tout cela. On veut même pas y penser, et il vaut mieux pas, parce que ce qui va arriver bientôt sera loin d'être une plaisanterie. Mais retournons à notre étude. De même, les publicains et les pécheurs, est-il dit, ces deux groupes étaient socialement réprouvés. Les publicains, collecteurs d'impôts, parce qu'au service des Romains haïs, et les pécheurs, parce qu'ils ne tenaient pas compte des lois et des traditions juives. Mais Luc rapporte que les publicains et les pécheurs se sont rassemblés autour de lui, chapitre 15, verset 1, et que Jésus mangeait avec eux en dépit de tous les critiques que cela avait soulevées, chapitre 5, verset 30, et chapitre 15, verset 2, et que par dérision, on le surnommait leur ami, chapitre 7, verset 34. Oui, Luc fait ainsi la chronique des trois principaux voyages missionnaires de l'apôtre Paul, qui le conduisent à évangéliser d'abord les villes de la Galatie, ensuite il est parlé même de l'Europe, et enfin, pendant à peu près 5 ans, il y a Éphèse et Corinthe. Ensuite, il y a son arrestation à Jérusalem. Il y a les épreuves qui ont suivi et la dangereuse traversée jusqu'à Rome, aboutissant à son emprisonnement dans la ville impériale où il annonçait aux principaux des Juifs que le salut de Dieu est envoyé aux païens. Pendant 2 années entières, hardiment et sans obstacle, il a prêché le royaume de Dieu et il a enseigné ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Actes, chapitre 28, notez versets 28 à 31. 3 raisons justifient que nous ajoutions dans cette section le livre des Actes des Apôtres à l'évangile de Saint-Luc. On peut les mettre ensemble. D'abord, Luc est l'auteur des 2 livres. Il affirme ensuite lui-même la continuité qui existe entre eux. Le premier, l'évangile, contient tout ce que Jésus commença de faire et d'enseigner durant son ministère terrestre. Notez Actes chapitre 1, verset 1. Et le dernier, les Actes, renferme de toute évidence tout ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner à travers ses apôtres et par ses apôtres. Enfin, les 2 livres ont pour objectif le même message, qui est le salut de Dieu par Jésus-Christ pour le monde entier. Notez, s'il vous plaît, Saint-Luc chapitre 2, verset 30 à 32, et Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 28. Voilà donc les paramètres de l'histoire des 2 tomes de Saint-Luc, le salut qui comprend le pardon et l'esprit, je répète, le salut qui comprend le pardon et l'Esprit Saint. Le Christ seul, capable de sauver par sa naissance, ainsi sa mort et sa résurrection, et le monde qu'il est venu pour sauver, sans distinction de race, sans distinction de classe ou de sexe, ou d'âge ou besoin. L'amour de Dieu en Christ inclut donc chacun, en particulier ceux que la société marginalisée a laissés de côté. Il s'élargit jusqu'au toucher ceux, jusqu'à toucher tous ceux que les autres ont regardés comme intouchables. Car c'est du monde que le Christ, on peut dire que le Christ Saint-Luc est le Sauveur. Quatrièmement, nous avons l'Évangile et les lettres de Saint-Jean. Christ est donc la parole qui est faite chair. Chacun des évangiles commence d'une manière différente. Saint Matthieu, par la généalogie de Jésus, il retrace l'arbre familial jusqu'à Abraham. Saint Luc, avec la conception, la naissance et l'enfance. Saint Marc, il débute avec le ministère de Jean-Baptiste, tandis que Jean remonte jusqu'au commencement du temps. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Chapitre 1, verset 1. Cette parole personnelle et éternelle a été aussi l'agent de la création. Elle n'a jamais abandonné le monde qu'elle avait créé et elle est la lumière et la vie de tous les êtres humains. Cette parole de Dieu a été faite chair et habite parmi nous. Chapitre 1, verset 14. C'est à elle que Jean rend témoignage. Ce n'était pas une simple visite, mais c'était une incarnation. En Jésus de Nazareth, la parole est devenue un être humain. Voilà donc un paradoxe stupéfiant. Le Créateur a assumé la fragilité de ses créatures. Celui qui est éternel est entré dans le temps. Le Tout-Puissant s'est fait vulnérable. Le Tout-Saint s'est exposé à la tentation. Et finalement, l'immortel a subi la mort. Oui, chers amis, que se proposer Saint Jean en écrivant son évangile? Il nous le dit. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup de miracles qui ne sont pas du tout écrits dans le Saint-Livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est vraiment le Christ, le Fils de Dieu, et que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chapitre 20, versets 30 et 31. Trois étapes apparaissent très clairement. Primo, Jean sélectionne et rapporte certains signes. Secondo, afin que ses lecteurs puissent croire en Jésus. Et tierso, afin que, en croyant, ils puissent recevoir la vie par lui. Le témoignage conduit donc à la foi, et la foi conduit à la vie. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Donc, Saint Jean, sélectionne de très nombreux miracles, chacun traduisant en action l'une des affirmations de Jésus. Tel est donc le témoignage de Saint Jean que nous pouvons croire. Jésus a inauguré un ordre tout nouveau. Il est à la fois celui qui communique la vie et exerce le jugement. Il contrôle les puissances naturelles. Il est plein de vie. Il est la lumière du monde. Et en même temps, il est la résurrection et la vie. Son témoignage offre encore un autre aspect. Dans la première partie de son évangile, on trouve ses signes de puissance et d'autorité. Dans la seconde moitié, Jean rapporte des signes d'humilité et de faiblesse. Il commence dans la chambre haute, quand Jésus ôte son vêtement pour se ceindre d'un linge. Et Jésus s'agenouille pour laver les pieds des 12, des 12 disciples. Par-dessus tout, bien sûr, se situe la croix. Pour Saint Jean, bien que Jésus ait révélé sa gloire par des signes puissants, chapitre 2, verset 11, le principal instrument de sa glorification a été la croix. L'heure est venue, dit-il, où le Fils de l'homme doit être glorifié, chapitre 12, verset 23. Si dans son évangile, le but de Jean est de rendre témoignage au Christ afin que ses lecteurs croient en lui et reçoivent la vie, chapitre 20, verset 31, son objectif dans ses lettres, il convient de s'y référer brièvement ici et d'aider tous ses lecteurs à faire un pas de plus. Il écrit « À vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 13. J'ai dit premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 13. Car recevoir la vie est une chose, mais c'en est une autre de savoir qu'on l'a reçue pour l'éternité. Après avoir rassemblé les signes qui rendent témoignage au Christ, Jean développe maintenant trois tests capables de démasquer toute fausse assurance qui serait née d'un pseudo-christianisme et de confirmer la conviction des chrétiens authentiques. Il ne mâche pas ses mots. Il montre du doigt trois menteurs. D'abord, quiconque nie que Jésus est le Christ venu en chair, selon 1er épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 22, et chapitre 4, verset 2, ça, c'est le test doctrinal. Ensuite, quiconque se dit en communion avec Dieu, tout en marchant dans les ténèbres, selon Saint Jean, chapitre 1, premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 6. Ça, c'est le test moral. Enfin, il y a celui qui dit aimer Dieu, mais a de la haine pour son frère. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 20. Ça, c'est le test social. Inversement, primo, nous reconnaissons l'Esprit de Dieu parce qu'il confesse le Christ. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 2, et deuxième épître de Jean, verset 9. Secondo, nous savons que nous l'avons connu. Pourquoi ? Parce que nous obéissons, oui, nous obéissons à tous ses commandements. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 3. Et tierso, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères et sœurs chrétiens. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 14. Jean réunit donc ensemble trois verbes qui caractérisent les membres du peuple de Dieu. Ils croient en Christ, ils s'aiment les uns les autres et ils obéissent à ses commandements. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 23 et 24. Chers amis, nous allons terminer. Voyez-vous, notre argumentation passe maintenant pour examiner l'apôtre Paul lui-même. Ces lettres, qui représentent à elles seules un quart du Nouveau Testament, ils se caractérisent par une extraordinaire diversité. 13 lettres lui sont attribuées, sans compter la lettre aux Hébreux, dont 7 sont considérées comme indiscutablement pauliniennes, telles que Galates, Romains 1 et 2 Corinthiens, Philippiens, Philémon et 1 Thessaloniciens. Les plus largement remises en question sont évidemment les lettres pastorales. Mais l'apôtre Paul, croyez-moi, il est bel et bien l'auteur des 13 lettres qui lui sont attribuées. Et là, nous terminons donc pour aujourd'hui. Nous n'avons plus le temps de faire une longue prière, nous dirons simplement, ensemble, maintenant, merci pour la sainte parole de Dieu. Merci de tout cœur et que nous puissions continuer l'étude, la gloire de Jésus-Christ, que nous continuerons demain, Dieu voulant. Et merci Seigneur de m'avoir aidé à parler jusqu'au bout. C'est pas évident. Je te remercie de tout cœur. Et bénis tous ceux qui écoutent ces études et qui les reçoivent dans leur cœur. Et bénis chaque personne, je te le demande. Soyez donc bénis, tous qui écoutez, et souvenez-vous que je vous aime de tout mon cœur. À bientôt, au revoir, mes très chers amis.